Au déclenchement de la guerre 39-45, la France a fait venir de force des paysans indochinois pour participer à l'effort de guerre comme travailleurs. Ils étaient 20 000, sous-payés, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en a peu parlé. Pierre Daume, journaliste indépendant, longtemps correspondant de Libération en Autriche et en Languedoc-Roussillon, a mené une enquête à l'appui d'archives et de témoignages d'hommes encore vivants, résidant au Vietnam ou en France. Et il a publié un ouvrage, Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France, de 1939 à 1952, aux éditions Actes Sud. Ces hommes qui auraient dû quitter la France dès la défaite de 40 sont pour la plupart restés bloqués dans notre pays jusqu'en 52. 1000 sont définitivement restés en France pour une raison ou une autre, et 1000 autres sont morts durant cette période. Pierre Daume revient sur les raisons de cette présence inattendue. Ensuite, nous parlerons du retour de ces travailleurs analphabètes dans leur pays, analphabètes en France, et considérés comme des collaborateurs avec le grand ennemi du régime. Nous terminerons par trois parcours singuliers de ces immigrés de force. Un homme de radio, un peintre et un cinéaste.
L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser.
Dans cette histoire, c'est un autre des scandales qui jalonnent cette histoire, c'est que, donc, on a vu qu'ils auraient dû être tous rapatriés dès juin 40, il n'y en a eu que 5000, les 15 000 autres ont été bloqués en France, mais à cause du blocus par la flotte britannique de la route vers l'extrême-orient, mais à la libération, la route vers l'extrême-orient était à nouveau libérée. Et donc là, l'État français aurait, enfin c'était le devoir de l'État français de tout mettre en œuvre pour tout de suite rapatrier ces hommes dont on avait déjà volé 5 années de jeunesse. Or, ça n'a pas du tout été le cas, puisque les bateaux en direction de l'Extrême-Orient, au lieu d'être utilisés pour le transport de ces hommes-là, ont été utilisés pour le transport de soldats français pour aller mater les premières velléités d'indépendance d'Ho Chi Minh.
Hanoï, grâce à l'action efficace des troupes françaises, a été rapidement dégagée. Mais les bandes vietnamiennes mènent toujours dans la campagne une lutte sporadique. Il faut combattre. Comme l'a dit M. Moutet, avant toute négociation, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une décision militaire. Jour après jour, les troupes françaises, inférieures en nombre aux troupes du Viet Minh, continuent à faire des progrès, à débloquer les centres assiégés au milieu des désastres d'une bataille que la France n'a pas voulu.
Et donc, ces hommes ont continué à rester bloqués en France. Un grand nombre d'entre eux ont continué à être exploités en devant travailler dans des usines sans être correctement payés. Et ce n'est qu'à partir de 46 et, en vérité, et finalement que 48 que les rapatriements ont été véritablement mis en œuvre. Et les derniers de ces 18 000 rapatriés n'ont revu leur pays qu'en 1952, c'est-à-dire 12 années après avoir été arrachés de leur pays.
Voilà, donc ils arrivaient dans un pays qui devenait indépendant. Ils venaient, donc ils avaient passé 12 années en France. On pouvait considérer qu'ils avaient une petite porosité culturelle avec la France. Ils n'étaient pas forcément vus comme des Vietnamiens pure souche, si on peut dire.
Vous abordez une question très intéressante. Alors, c'est assez complexe. Hein. Déjà, quelques éléments. Pendant ces 12 années, ces hommes qui étaient, donc, au départ, des paysans vietnamiens, illettrés dans leur propre langue, au départ, en 39, ils ne parlaient pas un mot de français. Et 12 ans après, ils ne parlaient pas un mot de français non plus. C'est-à-dire qu'ils avaient vécu parqués dans des camps, coupés de la population française, et personne n'a eu l'idée d'essayer de leur apprendre un peu de français. Donc, déjà, cette porosité avec la culture française était finalement extrêmement limitée pour la plupart d'entre eux. Ça, c'est une première idée. La deuxième, c'est qu'en 1952, c'est encore la guerre. C'est encore la guerre, puisque la France va se sortir de la guerre d'Indochine en 54 avec les accords d'Évian, mais finalement pour passer le relais aux Américains, avec la guerre du Vietnam que l'on connaît et qui durera jusqu'en 1975. Donc finalement, ces hommes sont arrivés dans un pays déchiré par la guerre. Et là, il y a une différence entre ceux qui sont arrivés au sud, du côté de Saïgon, qui a toujours été côté français et côté américain, et donc différence avec ceux qui sont arrivés au nord, côté Hanoï, qui, eux, étaient aux mains de Ho Chi Minh et des communistes. Et donc là, ça donne des destins de vie sensiblement différents, avec ce que j'ai repéré, mais ça demanderait à être affiné par des travaux d'historiens futurs. Pour ceux qui sont arrivés au nord, chez les communistes, alors qu'ils avaient souffert pendant 12 ans du joug de l'État colonial, eh ben, ils ont été plutôt mal vus, ce qui a été une nouvelle douleur, puisqu'ils ont commencé par être soupçonnés d'avoir pactisé avec les Français. Les Français qui étaient naturellement le grand ennemi. Et donc, ils ont dû montrer leur bonne foi, essayer de raconter ce qu'ils avaient vraiment vécu. Et ça n'a pas été toujours facile. Ils ont subi un espèce d'ostracisme qui a duré plusieurs années jusqu'à ce qu'ils soient tout à fait réhabilités.
Ce sera pour aujourd'hui ou ce ne sera jamais, déclaré M. Mendès-France le 20 juillet, après un dernier entretien avec M. Molotov. Cette fermeté devait avoir raison des derniers obstacles. Avec l'aide totale et sans réserve de M. Eden, le chef du gouvernement français pouvait tenir sa promesse. Au jour de l'échéance, le cessez-le-feu en Indochine allait être proclamé.
Pierre Dombe, on peut peut-être parler, parce que là on parle de choses relativement graves, on peut peut-être parler d'un destin singulier qui vous a marqué parmi les personnes que vous avez rencontrées, hein, donc ces 25 personnes que vous avez interrogées. Est-ce qu'il y a une histoire que vous aimeriez raconter ?
Il y en aurait tout de suite plusieurs, parce que c'est vrai que ces hommes, et c'est un phénomène qu'on peut généraliser dans l'immigration, les gens qui vivent une expérience d'immigration sont porteurs non seulement de connaissances de leur pays d'origine, mais d'une énergie à vivre et à survivre et à se débrouiller dans la vie qui est extraordinaire. Et nombreux de ces hommes-là, immigrés de force en France, ont réussi une vie, une carrière souvent assez exceptionnelle. Alors, je pense par exemple à Vu Quoc Phan, qui est devenu, puisqu'on est à la radio, qui est devenu le chef de la technique à Europe 1. C'est lui qui a monté les plateaux techniques d'Europe 1. Il est devenu le chef des techniciens. Il connaît tous les grands journalistes que la France a compté depuis 1950, qui le connaissent par son prénom, qui le tutoient, etc., parce que c'était lui qui était là, chef de plateau en technique, pendant 40 ans. Alors, il y a évidemment Leba Dang, qui, sorti de ses rizières en 1939, s'est retrouvé, dès les années 60, un des grands noms de l'art contemporain international. Et le fait est qu'il est moins connu en France, son pays d'adoption en quelque sorte, qu'aux États-Unis ou au Japon, où c'est un des types qui se vend le mieux. Vous tapez Leba Dang sur Internet, c'est une des grandes pointures de l'art contemporain. Et d'ailleurs, lui a fait partie des 300 envoyé en Camargue à faire pousser du riz en Camargue. Il a des souvenirs assez pénibles de cette période.
En Camargue, le Rhône ralentit, somnole et s'étale au soleil. Le grand fleuve, soudain, paraît sans force, s'arrête, freiné, étouffé par l'amas énorme de sable et pierre que sa colère a arraché à ses rives.
Sinon, près de Montpellier, dans l'Hérault, à la Grande Motte, il y a Pham Van Nhan qui, dès 1946, s'est retrouvé embarqué dans un film documentaire sur la venue de Ho Chi Minh en France, puisque Ho Chi Minh est venu 3 mois en France pour essayer de trouver un compromis avec la France. Il s'est fait jeter quand même à le propre et c'est à cause de ça, notamment à cause de l'échec de ces négociations, que la guerre d'Indochine a eu lieu. Et donc là, il y a une petite équipe qui l'a suivi et qui a réalisé un document audiovisuel absolument et extraordinaire. Et donc, Pham Van Nhan faisait partie de cette équipe. Et juste après, il s'est mis à réaliser lui-même ses propres documentaires sur la communauté vietnamienne en France. Ces documentaires ont été passés dès 1947 dans les salles de cinéma d'Indochine et ont reçu un succès extraordinaire, extraordinaire. Et ce qui lui a permis d'avoir de l'argent pour faire de nouveaux films, il s'est lancé dans des films de fiction et Nhan est devenu le premier cinéaste vietnamien. Et d'ailleurs, ces films documentaires tournés en fait dans la France et dans Paris juste après la libération ont une valeur audiovisuelle extrêmement importante. Et l'INA, donc qui rassemble toutes les archives audiovisuelles françaises, vient de dépenser, je crois, 40 000 euros pour réparer ces films qui sont rarissimes, enfin qui offrent des images rarissime de la France juste après la libération. Voilà trois destins qui me viennent immédiatement à l'esprit.
Dans le port de Saigon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise. On ne connaît pas son nom, mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage fumé.
Donc trois destins que vous pourrez lire dans Immigré de force, donc votre dernier ouvrage, Pierre Dôme, donc qui raconte ces 20 000 hommes qui sont venus d'Indochine avant 1939, dont certains, la grande majorité, sont repartis et un petit millier sont restés en France et vivent maintenant dans notre pays, même si beaucoup sont morts du fait de leur âge. Mais vous avez quand même pu rassembler 25 témoignages, que ce soit en France et au Vietnam, donc des histoires pour le moins singulières. Et puis, eh bien, une page de l'histoire coloniale ouverte, qui n'avait jamais été vraiment ouverte. Donc, c'est plutôt salutaire hein, comme travail.
Mon travail s'inscrit véritablement dans le débat ouvert en 2005 sur le soi-disant rôle positif de la colonisation. Vous vous souvenez que en février 2005, des députés ont eu cette idée absolument hallucinante et scandaleuse de chercher à imposer aux enseignants français des collèges et des lycées de raconter le rôle positif de la colonisation aux élèves. Et donc, il y a eu un grand tollé qui a été soulevé et finalement, cet article de loi a été heureusement supprimé. Mais le débat reste très ouvert puisqu'il y a en France tout un fond de nostalgique de l'époque coloniale qui cherche toujours à essayer d'expliquer que la colonisation, c'était très bien, grâce à la France, on a construit des ponts, des hôpitaux, etc. Et qui cherche à masquer complètement le scandale profond de l'entreprise, de toute entreprise coloniale. C'est heureusement, les jeunes générations aujourd'hui considèrent ça comme une évidence que c'est impensable de se dire aujourd'hui, on prend notre armée, on va chez le voisin, on tue les gens qui résistent, on dit maintenant, c'est à nous. Et il y a des gens, aujourd'hui en France, qui cherchent à essayer d'expliquer que non, c'est pas vraiment comme ça, que ça pouvait être sympathique, etc. Et donc moi, mon travail, qui décrit de façon extrêmement minutieuse et donc très étayée un exemple de ce qu'était la réalité de l'exploitation coloniale et de l'exploitation des peuples colonisés par l'État français, ben, j'espère en effet que ça va permettre de mettre un frein aux ardeurs de ceux qui veulent essayer de nous faire croire qu'il y avait un rôle positif à la colonisation.
C'est un livre contre l'angélisme. Donc votre ouvrage « Immigrés de force » sorti au mois de mai, Pierre Dôme, donc aux éditions Actes Sud.
À l'abri du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour dans le soir au parfum lourd. Au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Papillon, fumée cruelle, papillon, poison menteur.